When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode numéro 85. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets et où on met à la portée de tous et toutes les actualités du monde de la technologie, ou du moins c'est le but. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte et je vous accueille dans ce petit podcast entre amis. Quand je dis entre amis, c'est que nous sommes plus que un, donc plus que moi. Je reçois également Benoît et Mike du confrère podcastien NipTech, un autre podcast sur la technologie dont on va vous parler à la fin de l'émission. Et quand on dit souvent que la podcastosphère est plus grande que la France, et là on le prouve avec brio, et vous le prouvez toutes les semaines avec brio, puisque vous deux, vous êtes origine de Suisse, n'est-ce pas ?
Absolument, ouais. Moi c'est j'habite bien. Dublin pour le moment, mais oui. Depuis quelques années, mais oui, de Suisse. La région lausannoise, pour ceux qui connaissent.
Alors ça, c'est Benoît qui nous parlait. Et maintenant, pour vraiment avoir toute la profondeur de la Suisse, on va attendre que Mike nous dise bonjour.
Ah, merci. Venant de ta part, Patrick, ça me fait plaisir. Merci. Non, c'est vrai. J'arrive pas à le cacher. Oui, je suis suisse. Je m'appelle Mike, bien sûr. Avec Ben, on fait NipTech Podcast ensemble depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc, on aime bien la tech. Moi, franchement, je suis super honoré que tu nous aies invités parce que je te suivais pas forcément sur le podcast Le Rendez-vous Tech, mais je te suivais dans tes interventions sur This Week in Tech, que j'écoute vraiment souvent depuis bientôt 5 ans avec Léo Laporte. Et franchement, c'est pas pour te jeter des fleurs, hein. Je veux pas vraiment le faire comme
non,
ça.
Non, mais vas-y, c'est pas grave, ça me dérange pas.
Mais à chaque fois que t'intervenais, déjà, tu parles vraiment bien l'anglais. Et c'est vrai que pour les francophones, il y en a peu qui parlent très très bien l'anglais comme toi. Même mieux que Loïc Lemmer. le truc. Et deuxième, les interventions que tu faisais, elles étaient toujours super intéressantes avec plein de trucs. Donc, je suis plutôt honoré que tu nous invites.
C'est très gentil. Je trouve que ce podcast commence très très bien. Vous trouvez pas la chatroom que le podcast commence bien? La chatroom est bien sûr présente avec nous sur le live de l'émission qui est comme toujours sur nowatch.net/live avec Ustream qui nous permet de faire cette diffusion en direct et qu'on remercie au passage. La chatroom est plutôt contente aussi, visiblement, donc j'espère que ça va bien se passer. On va donc parler un petit peu plus de NipTech, du podcast, dans quelques minutes, enfin à la fin de l'émission plutôt, mais entre-temps, on a plusieurs sujets assez intéressants à aborder, à commencer par un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce que j'aime bien la politique. Bon, on va pas trop parler politique, mais j'aime bien quand la politique et la technologie se retrouvent dans un même sujet parce que ça me permet de parler deux choses qui me tiennent à cœur. Pour ceux qui... Tu parlais de mon anglophonie, Mike, vous saurez peut-être que je fais une émission qui s'appelle The Phileas Club, qui parle un petit peu de politique aussi, en anglais. Et donc, je suis content d'avoir des gens qui sont à l'étranger, particulièrement en Suisse, et bon, à Dublin aussi, mais plutôt d'origine suisse, parce que, évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer, chers auditeurs, qu'il y a eu un gros brouhaha, ou plutôt une affaire un petit peu... qui a suscité des commentaires et des réactions, on va dire, sur Twitter le soir de l'élection présidentielle. Donc c'était hier soir au moment où on enregistre cette émission, puisque pour éviter d'influencer les votes, les scrutins restants, le CSA, si je ne m'abuse, avait décrété qu'il était important et même obligatoire de ne pas parler des premières estimations, des premiers sondages pour les résultats d'élections présidentielles sur l'ensemble des médias français, sachant qu'ils incluaient dans les médias français Twitter et les réseaux sociaux en général. Alors, évidemment, pour qui que ce soit qui connaît un tout petit peu la façon technique dont fonctionnent tous ces réseaux, ça fait rigoler parce que il est très difficile de surveiller et de limiter ce qui se passe sur ces réseaux. Je dis très difficile, c'est un euphémisme, il est évidemment absolument impossible de le limiter. Le problème, c'est que bon, alors pour ceux qui ne sont pas sur sur Twitter, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Les premières estimations arrivent sur les médias étrangers et notamment suisses et belges, principalement puisque francophonie oblige, ils s'intéressaient peut-être un petit peu plus à l'élection française. Ah, Mike bouge son micro.
Oups, pardon. Une mauvaise note pour moi, elle est là pour commencer, pardon.
On tient le compte. la Belgique, la Suisse suivaient un petit peu ce qui se passait et eux pouvaient diffuser les premières estimations localement, évidemment. Mais bien sûr, une fois qu'elles sont quelque part sur le net, elles peuvent très facilement arriver sur Twitter. Bon. Disons que il y a 5 ans, lors des élections précédentes, évidemment, on pouvait les retrouver sur le net facilement, mais il y avait pas un moyen aussi rapide et efficace de diffuser l'information que Twitter. Donc aujourd'hui, c'était une sorte de dilemme très compliqué pour les autorités françaises de dire comment contrôler. Est-ce qu'on peut contrôler? Est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Et le résultat a été que sur Twitter, s'est développé un hashtag, donc un code de sujet pour ceux qui n'utilisent pas l'outil, un code de sujet qui réunissait toutes les informations sur ce sujet, qui était particulièrement comique, puisque ce hashtag était Radio Londres. Radio Londres étant devenu le code qui réunissait toutes les informations sur les estimations, des informations codées ou non, sur les estimations sur l'élection, avant bien sûr l'heure fatidique des 22h des 20h à laquelle tous les bureaux étaient fermés, où les estimations étaient publiables. Donc on avait droit à des tweets du genre, certains un petit peu cryptiques, du genre attention, français, le flan est dans le four. Je répète, le flan est dans le four. Hashtag Radio Londres, etc., etc. C'était très, très drôle. Certains ont été un petit peu plus loin et ont donné des résultats un petit peu plus clairement. On va en parler dans quelques instants. Déjà, première chose, vous, de l'étranger, comment est-ce que vous avez vécu cette situation un petit peu ubuesque?
Moi, je peux commencer. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est ce qu'il faut savoir sur la Suisse. Je pense que la Belgique, c'est un peu la même chose. C'est qu'on est quand même très sensible aux médias français. Donc, beaucoup de Suisses francophones, parce qu'on parle pas mal de langues, mais on est une minorité qui parle en langue français. On regarde beaucoup.
C'est la minorité, c'est les gens les plus importants. Évidemment.
C'est la minorité qui compte. C'est ce qu'on pense aussi. On regarde beaucoup la télé française. Donc, beaucoup de Suisses connaissent la politique parce qu'on voit ce qui se passe et on sait ce qui se passe. Donc il y a un intérêt, même si c'est pas notre pays, à écouter ce qui se passe. Alors bien sûr, quelqu'un qui est un geek comme moi, il s'est fait une joie de non seulement tweeter les résultats à l'avance, mais aussi de mettre les hashtags comme Radio Londres, ou il y avait des hashtags comme Élysée ou présidentiel, pour donner les résultats et pour voir si j'allais avoir les 75, ou on dit en Suisse, on dit 75, hein, 75 000 euros d'amende. Alors je peux vous rassurer, jusqu'à maintenant, j'ai encore reçu aucune lettre, aucune menace, et pourtant je crois que j'ai
cliqué
les premiers. Ah, j'ai fait que ça. C'était assez drôle de voir, parce que j'ai même vu un tweet de ta part.
Oui.
C'est assez intéressant, et je pense que je m'imaginais, je me disais, mais si j'étais en France et français, je pense que je ferais attention aussi. Parce qu'on sait jamais, mais j'ai quand même vu l'AFP qui a quand même dit quelques petites choses, et j'ai même vu un tweet de ta part qui est Radio Londres également, et c'était super drôle de voir ça.
Oui, c'était, et surtout que ça s'est développé de manière complètement organique, comme souvent ces phénomènes sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est-à-dire que il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit « Ok, tel jour, on va utiliser le hashtag Radio Londres pour parler du truc sans en parler. » C'est vers le début d'après-midi que ça a commencé à se développer. Et on ne sait pas très bien comment ces phénomènes se convergent pour que tout le monde utilise le même. Mais ce qui était clair, c'est que... Alors, c'est la commission des sondages, si je ne me trompe pas, peut-être pas le CSA. Je ne sais plus quel était le rôle de chacune des organisations, mais la commission des sondages... à mon avis, n'avait pas anticipé ce type de raccourci pour parler des choses sans en parler. En l'occurrence, moi, ce que je disais dans mon hashtag, c'est qu'il devait s'arracher les cheveux, parce que, évidemment, c'est impossible à contrôler. On a appris aujourd'hui que la commission des sondages, justement, avait déféré au parquet des captures d'écran d'utilisateurs de Twitter qui avaient dévoilé les informations avant 20h, et puis elle va ensuite laisser le parquet travailler, voir s'ils vont enquêter et inculper les gens qui sont évoqués dans ces déferrages au parquet, on invente des mots. Il faut faire la différence aussi entre les gens qui utilisaient simplement avec humour le Radio Londres et ceux qui véritablement donnaient les sondages, comme le dit Maxime38 dans la chatroom, qui donnaient véritablement les résultats des sondages en clair, avec leur nom et leur prénom, ce qui est un niveau de gravité, bien sûr, très différent.
Bon, moi, Benoît, je pense ému pour les pauvres gars qui devaient prendre des captures d'écran, qui devaient se dire quand même qu'ils faisaient un beau boulot moisi. Mais à part ça, bon, le problème de fond, il est où? Moi, je me dis, OK, on a Hollande à 28%, va savoir. Et qu'est-ce que ça gêne? Est-ce que ça va motiver les gens à aller voter? C'est grave? Est-ce que c'est un problème que ça motive les gens à aller voter? Où est le problème de fond? Personne n'a pu m'expliquer encore.
Ben, c'est une très bonne question, en fait. Et c'est peut-être la question qui, moi, me tient le plus à cœur. Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, et on peut les comprendre, beaucoup de réactions de gens sur Twitter qui disaient « Mais c'est n'importe quoi, comment... » D'une part, c'est incontrôlable. D'autre part, admettons même que les gens le fassent. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça va rien changer. Et bon, j'en discutais avec Corben par Twitter interposé il y a quelques heures, parce qu'il disait, au moment où c'est lui qui a publié la nouvelle, enfin c'est par lui que j'ai vu la nouvelle des inculpations, ou en tout cas des gens qui ont été déférés au parquet, et il était un petit peu remonté, Corben. On a l'impression que l'univers du net accueille ce type de mesures un petit peu comme on accueille les mesures anti partage de fichiers, ou on le prend comme ah voilà, c'est le gouvernement qui ne comprend rien à Internet, qui essaye de nous tuer dans l'œuf nos libertés. Et le truc, c'est que ce type de mesure est extrêmement important à mon sens, parce que ça découle d'un principe fondamental de la démocratie, c'est qu'on ne peut pas influencer le vote des gens. On ne peut pas influencer un scrutin, qu'il soit universel ou pas. Et l'élection présidentielle est évidemment la plus importante des élections de toutes, en tout cas en France. Et le truc, c'est que si jamais on a le droit de donner des résultats avant que les bureaux de vote soient fermés, ça peut avoir une influence sur les gens qui vont voter. Évidemment, c'est pas deux estimations sur Twitter qui vont changer l'avenir du pays. Par contre, si on laisse cette porte ouverte, ça veut dire que, du coup, peut-être que les médias vont se mettre à tweeter de la même manière. Peut-être que l'année prochaine ou dans quelques années, les médias vont se dire « Bon, bah c'est sur Twitter, donc si c'est sur Twitter, ça veut dire que c'est connu, donc on peut y aller nous aussi. » Et puis déjà, ça va influencer les gens. Et ensuite, pourquoi pas se dire que certains pourront les utiliser comme des outils de manipulation des votes, en donnant certaines informations à certains endroits, en donnant des informations erronées, en les révélant public, ça pourrait également avoir une influence. C'est quelque chose, c'est un terrain très glissant et qu'il est important de protéger. Et évidemment, c'est un petit peu vain de se dire on va faire payer les gens sur Twitter qui ont cassé cet embargo, mais il faut bien faire quelque chose. C'est un petit peu comme se dire, bon, bah, pour le principe, on dit que le shit et la marijuana, c'est interdit. On sait bien que tout le monde fume. Et bon, ensuite, il y a un autre débat. Est-ce qu'il faudrait ou pas interdire la marijuana? C'est un autre très bon débat. Mais je veux dire, on sait bien que tout le monde, que beaucoup, beaucoup de gens fument de la marijuana. Mais il n'empêche que si c'est pénalisé, ça fait une barrière et ça met une limite. Alors, est-ce que la limite est au bon endroit ou pas? Sur cette histoire de résultats sur Twitter, je suis pas sûr. Mmh. Ce que disait Corben en fin de notre discussion, c'était il faudrait peut-être interdire les sondages le jour du scrutin, tout simplement, et contrôler les choses à ce niveau-là. Et peut-être qu'effectivement, ça serait une solution plus raisonnable.
En Suisse et en France, en Suisse et en Belgique, de toute manière, les gens vont le dire. C'est une trop belle occasion d'attirer les gens.
Mais si on interdit aux instituts de sondage de faire des sondages le jour du scrutin, on coupe la chose à la source.
Non, parce que moi, je vais monter un institut de sondage suisse spécialisé dans les sondages en France.
L'État, si la loi interdit de faire des sondages sur le territoire français, le jour du scrutin, même ton institut de sondage suisse n'aura pas le droit de mener des sondages en France. Ça sera illégal. C'est à la limite, là, on parle dans la théorie. Je pense pas que ça soit le cas ou que ça arrive un jour, mais.
Mais je pense que vraiment, je pense qu'on est face à un choix qui est très, très, très difficile, je trouve, à comprendre quand on est hors de France. Parce que. Oui. Les pays qui essayent de contrôler Twitter et les réseaux sociaux, c'est la Chine, ça a été les pays de la dictature nord-africaine qui sont maintenant tombés. Donc essayer de contrôler les médias sociaux pour un pays comme la France, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur. Et vraiment, on a vu les médias suisses, la RTS qui est notre chaîne d'information, la RTBF belge sont donnés à cœur joie et je crois qu'ils ont même eu le plus de login de
visite.
Ouais, de visite depuis qu'ils ont été créés même. Donc ils étaient vraiment très
la
heureux.
La France entière était en train d'aller sur les...
Exactement. Alors, je suis d'accord avec toi que si on veut l'interdire, la seule manière, ça serait d'interdire les sondages, mais je pense que c'est pas aussi dans l'intérêt des politiques. Ils ont envie d'avoir quand même des résultats à 20h.
Bien sûr.
Moi, je pense que ça change rien. De toute façon, c'est très hypocrite parce que quand on regardait les résultats à 20h, toutes les personnes qui étaient présentes avaient déjà regardé sur les médias sociaux et les savaient. Les hommes politiques, bien sûr, ils étaient au courant avant tout le monde.
C'était même comique. On voyait les gens sur les plateaux télé, le nez rivé sur leur téléphone portable, en train évidemment de regarder soit les SMS, soit les réseaux sociaux, carrément, oui.
Moi, je pense que c'est une hypocrisie. Ce que je dirais qui est le mieux, c'est laissons les gens parler, laissons les gens tweeter. Même si c'était drôle de regarder le Radio Londres et de regarder les commentaires, et puis on comprenait très bien ce qui se disait. Je me dis, mais Patrick, tu devrais essayer au deuxième tour et tu devrais tweeter pour voir si tu... Et après, tu dis à tous tes auditeurs de mettre 1 ou 2 euros ou même 10 euros pour t'aider à payer l'amende.
Ouf, oula. Oui, il va en falloir des euros, oui. Écoute, je sais pas. Moi, je vais raconter une autre anecdote, peut-être. Quand je suis allé voter il y a quelques années, je suis arrivé au bureau de vote et je savais pour qui je voulais voter. Donc, j'ai pris uniquement un bulletin et je l'ai pris. Je suis allé dans l'isoloir où j'étais même pas en train d'aller dans l'isoloir. Et je suis allé voter. Et je me suis dit, en fait, c'est manquer de respect pour le processus démocratique que de faire quelque chose comme ça. Parce que même si moi, je sais que je sais ce que je veux faire et qu'il y a a priori aucun danger que qui que ce soit ne me voit faire ça et se dise « Bon, bah alors, moi, il faut pas que je... » Si vous voulez, il faut garder le secret de l'isoloir. C'est quelque chose de sacré dans le processus. Donc, même si on sait pour qui on veut voter, il faut prendre plusieurs bulletins, il faut aller dans l'isoloir, il faut suivre les règles parce que c'est une question de principe et il y a des raisons pour lesquelles les règles sont ce qu'elles sont. Et cette histoire d'absence d'annonce avant la fermeture des bureaux, c'est le même problème. C'est qu'il y a une raison pour laquelle on fait les choses comme ça, c'est pour éviter les abus potentiels. Et Si on commence, on sait pas, on sait où ça commence, on sait pas où ça s'arrête. Comme certains disent dans certains films comiques français, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc c'est pour ça que je sais pas si j'explique bien, mais c'est pour ça que pour moi, ça me paraît justifié de même ces essais un petit peu comiques et ridicules et risibles.
Oui, mais là t'es impur. Mais la réalité, c'est comme tu disais pour beaucoup d'autres choses, c'est que de toute manière ça va être là. Donc maintenant, comment tu agis là-dessus? Alors il y a beaucoup de gens dans la chatroom qui disent, et ils ont raison, ils disent on ferme tout le monde à 19h et on arrête d'en parler. Le problème venant qu'il y a un décalage entre la province et Paris qui est difficile à comprendre. Ou alors tout le monde ferme à 20h. Ensuite, moi j'ai participé à des dépouillements d'élections. C'est un processus de l'âge de pierre. Je veux dire, chacun il prend son petit bulletin, il dit le nom, il met. Je veux dire, franchement ça prend des heures. Donc du moment qu'on a les élections, on l'a bien vu d'ailleurs, entre le premier moment où il y avait des estimations et la fin, il y a quand même des fluctuations. Donc on n'aura pas des résultats précis, ça prend beaucoup de temps. Et moi je suis aussi d'accord avec Marc, je crois qu'on est là plutôt pour dire que c'est vrai que ça donne pas une image comme tu la veux, ça donne une image rigide, mais au-delà de ce qui est nécessaire en fait.
D'accord. Et donc dans les pays où vous habitez respectivement, il n'y a pas du tout ce problème, les réseaux sociaux peuvent annoncer les résultats sans restriction?
C'est assez drôle parce que nous, en Suisse, on vote beaucoup. On nous demande beaucoup notre avis. Je vais dire, allez, tous les 3 mois, on vote. Et on vote pas du tout.
Et vous votez sur tout un tas de...
Oui. Alors on vote au niveau du pays, au niveau de la commune, au niveau plus régional. On appelle ça des cantons, comme des départements. Et on vote beaucoup. Et on va rarement mettre notre bulletin dans l'urne parce qu'on vote tout le temps par correspondance. C'est-à-dire, tout le monde reçoit un bulletin à la maison et peut voter dans la tranquillité de son appartement et vote pour ce qu'il veut et renvoie. Et c'est un processus qui marche extrêmement bien, qui fonctionne vraiment bien.
Oui, parce que
vous
êtes discipliné, nous on est bordéliques.
Mais nous, les Suisses qui parlons français, on est aussi des indisciplinés. Hein. On tend à être un peu comme vous également.
Vous êtes les mauvais élèves.
Oui, on est les mauvais élèves.
D'accord. Mais ça veut dire que, est-ce que dans les élections importantes, est-ce que les médias, par exemple, ont le droit de révéler les tendances avant la clôture des votes?
Oui, en fait, ça se fait vraiment en direct parce que déjà, étant donné les dépouillements et qui viennent, énormément de votes, de gens votent par correspondance. Donc, ils reçoivent les bulletins déjà bien avant. Il y a quand même des gens qui viennent et à partir, on reçoit les premières estimations qui commencent à tomber par département, donc canton en Suisse, qui tombent dans l'après-midi. Donc, il n'y a pas du tout cette problématique d'une date précise. Les bureaux sont ouverts de vote, mais on continue à montrer les résultats. Alors, il y a pas, en fait, on n'a pas ce problème-là.
Non, ouais, le système est effectivement un peu différent.
Oui, c'est ça, c'est plus détendu. Quand on vote chaque 3 mois, je veux dire, là, il y a l'enjeu, parce que quand on vote peu, ben voilà, ça donne l'impression que c'est plus important. Je pense qu'aussi, on a vu en Suisse, bon, là, on va peut-être trop dans les trucs politiques, mais il y a des décisions comme la Suisse a refusé d'augmenter le nombre de semaines de vacances. Et ça, je pense que c'est un signe de maturité dans le processus démocratique.
A refusé quoi? L'augmentation du nombre de semaines de vacances?
Exactement. Il y avait une initiative qui disait 6 semaines de vacances pour tous. Et le peuple suisse a dit non. Et je pense que ça voilà, ça...
Effectivement, les Français et les Suisses sont pas les mêmes. Hein. On est d'accord.
Mais on aime les deux la tech, alors ça va.
Oui. Ouais, d'accord. Bon, effectivement, ce sont des je vois la chatroom qui s'énerve rien qu'à la mention de ce vote. Et je note juste une petite remarque de Khaled Nourdine qui nous dit, en parlant du vote électronique, c'est pas toi qui vote. Effectivement, ça me paraît être un des dangers dont qu'on pourrait craindre avec le vote électronique. C'est pour ça que le vote électronique, par exemple, je suis pas forcément pour.
Ah, alors, c'est un autre débat qu'on devra avoir, alors.
Oui, c'est une autre discussion, effectivement. Mais disons que, en France, c'est certainement le cas un peu partout, mais on a déjà tellement de problèmes avec, des fraudes électorales du genre, il y a des morts qui votent, ou que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs, les morts qui votent, où il y a plus de votants que d'habitants dans certaines circonscriptions. On se dit qu'avec le vote électronique et des gens comme Corbyn dans le pays, quand je dis des gens comme Corbyn, il y aura toujours des hackers et ce genre de système n'est pas complètement sécurisé. Donc, bon, bref, c'est un autre débat, effectivement. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette question de Twitter et Radio Londres. Je vois et je constate avec une petite amertume que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je me voyais faire ma démonstration magistrale. Et comme quoi, il est souvent important d'écouter les gens qui sont d'un avis différent. Et c'est avec cette philosophie que je conclue ce sujet. Bon, ok. C'est bon, plus personne n'a des choses à dire là-dessus.
Non, ah, moi, un sujet extrêmement intéressant.
D'accord. Non, mais moi j'attends que tu prennes la décision là devant nous tous de tweeter les sondages avant 20h dans 2 semaines, le 6 mai, comme ah, mais... ça, et qu'on pourra t'aider à payer l'amende.
tu tombes mal, Mike. Moi, je suis justement, je fais partie des gens qui croient que c'est une bonne chose de ne pas tweeter ces trucs. Donc, il faudrait plutôt aller demander à Corben ou au Twitos.
Je vais lui demander.
Ceux qui pensent que c'est une bêtise. Leur dire, bah voilà, allez au bout de votre truc et risquez les 75 000 euros d'amende. Bon, on enchaîne avec un autre truc un petit peu ridicule qui a fait bien rire et en même temps un petit peu peur au monde de la technologie. C'est la question des NFC sur les cartes bancaires. Corben l'a illustré d'un terme auquel on est habitué, c'est le Epic Fail, parce que figurez-vous que les premières cartes bancaires NFC, donc sans contact, vous savez, le NFC, on en parle souvent, hein, mais c'est ce système qui permet de transmettre des informations par ondes sans fil quand on est juste à côté du récepteur. Par exemple, les passes Navigo pour les Parisiens ou les passes de transport en commun fonctionnent de cette manière. Et évidemment, les fabricants de cartes de crédit sont en train de l'intégrer à leur carte et ils ont établi les premiers standards ces semaines-ci et ils les ont établis avec ils ont sorti les premiers modèles. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé, enfin, c'est complètement invraisemblable et c'est vraiment digne d'un Epic Fail, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes protocoles que pour les informations stockées sur les cartes sans contact sans fil, et ces protocoles n'étaient pas sécurisés parce que, évidemment, pour les cartes, les versions précédentes qu'il fallait insérer dans un lecteur, mm-hmm. Il fallait l'insérer dans un lecteur. Donc, il fallait l'insérer dans le lecteur, mm-hmm. avoir le PIN et tout ça, avoir le code PIN et tout ça. Donc, c'était quand même pas n'importe qui pouvait le faire. Sauf que là, en sans fil, il suffit d'être à côté de la carte pour pouvoir communiquer avec. Donc, si jamais les informations ne sont pas codées, il y a un certain nombre d'informations, pas toutes les informations, mais un certain nombre d'informations comme les dernières transactions, enfin ce genre de choses, le numéro de carte, la date d'expiration, etc., le nom et le prénom, qui sont accessibles librement. Et il suffit que quelqu'un ait un appareil, enfin un lecteur NFC, c'est-à-dire très facilement accessible pour quelques dizaines d'euros, un tout petit peu de connaissances logicielles, et il se balade dans le métro, il attrape toutes ces informations. Enfin, c'est le genre d'erreur qui est inconcevable, quoi, incompréhensible. On comprend pas comment des sociétés qui brassent autant d'argent et qui consacrent autant d'argent à des projets comme ceux-ci peuvent commettre des erreurs aussi grossières, quoi. C'est invraisemblable.
Est-ce que ces cartes ont été commercialisées ou c'est juste un test?
Elles ont été, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, mais elles ont commencé à être commercialisées. J'imagine qu'elles vont immédiatement être arrêtées et retirées, qu'ils vont changer les protocoles et qu'ils vont les recommercialiser. Enfin, ça prend dans Maxime 38 nous dit oui, il y en a des millions aux États-Unis. Oui, effectivement, aux États-Unis, en tout cas, elles sont déjà disponibles. Bon, elles vont être appelées, ils vont très rapidement changer le protocole et ça va mieux aller dans quelques semaines à peine, je suis sûr, mais enfin.
Bon, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que dans le monde des startups, on parle souvent de points de friction, c'est-à-dire quel est le problème de l'utilisateur. Alors, typiquement, je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, ce qui m'ennuie avec ma carte quand je vais faire des achats, c'est pas de rentrer mon PIN. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà, ça prend 2 secondes. Ce qui m'embête, c'est d'attendre une demi-heure avant de pouvoir rentrer mon PIN en faisant la queue. Et donc, cet effort qui est fait pour rendre plus facile le mouvement de paiement, c'est pas un effort intelligent. Enfin, c'est pas là où l'argent doit être mis. Il doit être mis plutôt, on parle de ces caddies où on passe, et puis on a directement la liste qui est faite, et puis on paye. Et c'est vrai qu'en tout cas, la démonstration qui est faite, là, j'ai lu l'article, elle est impressionnante. Et c'est, moi, je suis surpris quand on voit que PayPal, c'est une société qui a été construite sur la sécurité, par exemple, et toutes ces cartes de crédit sont construites sur la sécurité, ils laissent un trou béant comme ça, c'est à tomber de la chaise. Et vraiment, vraiment très impressionnant. Ouais.
C'est certain, oui, effectivement.
Mais je pense qu'après, ils recollent les morceaux, parce que j'ai fait cette expérience assez innovante. J'avais même pas demandé que maintenant, systématiquement, à chaque fois que j'utilise ma carte de crédit, je reçois un petit SMS, dont vous dites un texto, hein, je crois. Texto.
Oui, c'est ça. Non, on dit SMS.
SMS aussi, qui me dit exactement le montant, voilà ce qui a été débité de votre carte. Et ça, c'est assez nouveau. Ils m'ont même pas demandé. Ils l'ont fait. Je l'ai vu ce dernier mois. Donc, je pense qu'ils pallient la sécurité en envoyant après des SMS ou des textos directement pour qu'on contrôle les montants.
Mais... C'est vrai.
Est-ce qu'il y a déjà en France des paiements par téléphone? En Irlande, par exemple, j'ai absolument jamais vu ça. Je sais
non,
pas si
ça n'existe pas encore. C'est un énorme marché. Juste avant de partir sur ce sujet, Maxime 38, encore lui, dit très justement, le but de Visa et de Mastercard n'est pas d'écourter la queue, mais de remplacer les paiements en liquide. Effectivement, leur objectif est un petit peu différent. Et ce ne sont pas eux qui pourraient écourter ces queues qu'on a au supermarché. Ça serait les supermarchés eux-mêmes en intégrant des modèles qui sont en test depuis longtemps, mais qui ne s'étendent pas vraiment, des modèles de constitution de caddie où on scanne soi-même les codes, ou alors où il y a des systèmes, effectivement des puces NFC qui vont être lues à distance par le caddie et qui vont vous faire votre total eux-mêmes, et ensuite vous n'aurez plus qu'à passer pour payer à la caisse. Il y a des systèmes comme ça dans différents grands magasins en France, supermarchés en France. Mais ça s'est pas encore étendu de manière universelle. Pour ce qui est des questions de paiement par téléphone mobile, je ne sais plus qui disait il y a quelques semaines, il y a un moyen pour Apple de devenir une société qui vaut 1 000 milliards de dollars du jour au lendemain. Ça serait de proposer un autre produit, non pas une télé, mais les e-paiements, parce qu'ils ont déjà énormément de comptes, plusieurs centaines de millions de comptes d'utilisateurs iTunes qu'ils pourraient mettre à profit, et ils ont ces comptes de carte bleue partout, et ils pourraient les mettre à profit en faisant des achats par le téléphone mobile, simplement en facturant le compte iTunes, enfin le compte Apple, plutôt que d'utiliser sa carte bleue. C'est un raccourci un peu qui peut paraître étrange, mais effectivement, Apple a toutes ces informations. Ils ont l'infrastructure et ils pourraient utiliser cette infrastructure pour proposer ce type de service. Le service, en fait, de e-paiement serait un effectivement, leur permettrait de faire énormément d'argent très rapidement. Mais bon, c'est un autre sujet là encore.
Alors là, je suis d'accord avec toi. J'avais lu la news, c'est Jason Calacanis, hein, cet Américain.
Dont vous parlez tout le temps dans Nip Tech, hein, d'ailleurs.
On
vous l'aimez
bien,
Calacanis.
Bien fan. Moi, je suis bien fan. tous ceux qui, il fait This Week in Startup, c'est un peu une copie de This Week in Tech, mais avec startup derrière. Mais c'est vrai que on en a parlé sur Nip Tech de ça. Et ce qu'on disait, c'est que franchement, je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'Amazon et Apple se battent pour avoir les cartes de crédit de leurs utilisateurs, et en ont des millions, hein. Et c'est un modèle qui fonctionne. Et c'est vrai que on se pose la question, à qui je fais confiance? Et j'ai jamais eu rencontré encore jusqu'à maintenant une personne qui m'a dit à Apple je lui fais pas confiance, ou à Amazon je lui fais pas confiance. Et ils ont ce capital sympathie parce qu'ils l'ont aussi mérité avec leur manière de, bon, c'est fermé, mais c'est leur manière de gérer les applications, de faire attention à l'utilisateur. Et donc, on leur fait plus confiance à d'autres. Moi, j'avoue, s'il y avait ce moyen de paiement, e-paiement Apple, je pense que je serais assez chaud pour l'utiliser.
Oui. Bah écoute, en tout cas, effectivement, on leur gardera notre confiance tant qu'ils ne feront pas l'incroyable fail de Visa et Mastercard dont on vient de vous parler. On enchaîne sur des... Pardon, Benoît, je t'interromps.
Non, non, j'acquiesçais comme ça, d'accord. Solennellement, ouais.
T'es d'accord, c'est bien. J'aime bien quand les gens sont d'accord, ça change du sujet précédent. Alors, sujet suivant, on reparle très rapidement de l'ACTA. Je pense que les sujets qui vont venir vont passer un petit peu plus rapidement. On reparle donc très rapidement de l'ACTA pour vous dire que le nouveau rapporteur de la Commission européenne qui est... qui s'occupe donc de ce sujet spécifiquement, a lui aussi recommandé à la Commission de ne pas voter l'ACTA. Et c'est, si vous vous en souvenez un petit peu, c'est le deuxième rapporteur qui émet cette recommandation après Kader Arif, qui avait carrément démissionné en signe de protestation. Aujourd'hui, donc, c'est David Martin qui émet un avis négatif et il est... Disons que rien n'est jamais impossible, mais là, ça devient difficile pour la Commission de voter pour si jamais le rapporteur, lui, dit, enfin, deux rapporteurs à la suite ont dit, bah, a priori, il y a des gros problèmes avec l'ACTA. Donc, il semblerait que l'ACTA soit en mauvaise position. Vous vous souviendrez que 20 États membres de l'Union européenne ont déjà signé l'ACTA à Tokyo ou Kyoto, je ne sais plus, il y a quelques mois de ça. On en avait parlé évidemment dans l'émission. Et si jamais la Commission européenne ne ratifie pas le traité, ça annulerait certainement ces signatures-là. Donc, bon, ceux qui sont contre l'ACTA, dont vous savez bien que je fais partie, seront sans doute heureux d'apprendre la chose. Et comme le dit Tinus, alea acta est. C'est marrant. Ceci dit, il n'est pas trop tard encore aujourd'hui pour parler à vos élus de ce sujet, qu'ils soient au Parlement européen ou en France. Vous savez qu'il y a les élections parlementaires qui suivent les élections présidentielles dans 2 mois environ. Donc, les élus seront à votre écoute, je pense.
Ouais. En Irlande, il y avait... Oui, bon, c'est pas un sujet qui me passionne autant que les deux autres, je dois dire, mais je sais qu'en Irlande, ils avaient essayé aussi ils l'ont fait passer, hein, et ça a passé comme une lettre à la poste. C'est un pays où les gens ont peut-être moins de sensibilité, et c'est dommage, parce que c'est vrai que le principe de proportionnalité, c'est quand même un des fondements du droit. Et ici, alors tout s'est très bien passé en Irlande, donc si vous voulez downloader, venez pas en Irlande. Typiquement, mon provider, qui s'appelle Aircom, m'interdit d'aller sur de Pirate Bay.
Il a bloqué l'URL de Pirate Bay?
Ouais, carrément. Donc quand je vais dessus, ils disent voilà, désolé, on va pas loguer votre IP, ayez pas peur. Cependant, ce site est interdit à la consommation. Et franchement, c'était un petit peu choquant. Et ils vont encore plus loin maintenant. Donc, je suis content de voir que la Commission européenne va aussi aider certains pays qui sont peut-être moins armés pour comprendre les enjeux à prendre les bonnes décisions, on va dire.
Alors, moi, je peux que vous proposer de tous revenir en Suisse, hein, parce qu'on n'a pas du tout ce problème-là. Hein. Comme vous le savez, en Suisse, on aime le chocolat et on aime aussi l'argent des autres. Donc, mais c'est vrai qu'une chose qui est bien, c'est que c'est la vie privée. C'est vrai que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur et c'est toujours une grande discussion. Là, c'est vrai que comme dans tous les pays, on a des fois des petits soucis d'insécurité. On parle beaucoup de mettre des caméras, mais ça reste un problème. Pourquoi? À cause de tous ces problèmes de protection de la vie privée. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout face à ça, où ils font attention non seulement pour tous les comptes bancaires que toutes les personnes ont chez nous, mais aussi pour l'Internet. Donc, je peux aller sur Pirate Bay, bien sûr, même si je n'y vais jamais et je ne download jamais, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, on avait évoqué il y a quelques mois, là aussi, une décision d'une commission du gouvernement suisse de ne pas légiférer sur le téléchargement, enfin le partage de fichiers, on va dire, pour ne pas dire téléchargement illégal, puisque cette commission n'avait pas trouvé de lien entre ce téléchargement illégal et une baisse des dépenses dans le domaine de la culture. Donc, on avait largement applaudi des deux mains cette décision. Donc, effectivement, la Suisse a de nombreux attraits pour les Français que nous sommes.
Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les Européens et le rapporteur européen comprend mieux que certaines personnes aux États-Unis qui, eux, ne comprennent moins ce genre de choses. Donc, au moins, vous semblez avoir des gens compétents au Parlement européen. Donc, c'est bon signe.
Oui, il y en a au moins quelques-uns, c'est vrai. Un autre traité qui, enfin traité, pardon, un autre une projet de loi qui a fait beaucoup couler d'encre aux États-Unis parce que certains l'ont assimilé à l'ACTA, c'est le CISPA. Et le CISPA, c'est un comment dire, c'est un petit peu différent en fait. Il y a eu beaucoup de discussions il y a 2 semaines, mais finalement le sujet a été un petit peu réglé. Le CISPA est un projet qui vise à faciliter le passage d'informations entre les agences gouvernementales et les sociétés, et notamment les réseaux sociaux ou des choses comme Google avec Gmail ou enfin Facebook, Twitter, tout ça, parce que ils ont des deux côtés des informations qui pourraient aider les uns et les autres à faire leur travail. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, dans énormément de cas, le partage de ces informations était illégal. Or, parfois, en fait, c'était très frustrant pour ces agences parce que il aurait suffi d'avoir cet échange d'informations pour résoudre des problèmes importants. Et il y a évidemment, quand on parle de ce genre de choses, il faut être très prudent parce que si on ouvre trop les portes, là encore, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. En gros, on commence à flirter très vite avec des problèmes de vie privée. Et dans le texte de cette loi, il y avait là encore, c'était un petit peu trop large et un petit peu trop laxe. Et il y avait des mentions de propriété intellectuelle qui n'avaient rien à faire là-dedans. Heureusement, ce texte a été revu pour être beaucoup plus sévère et beaucoup plus strict et beaucoup plus précis et ne permettre ce type d'échange d'informations que dans des cas très précis, qui sont des cas un petit peu de force majeure et que pour ne pas que ce type de procédé puisse être mal utilisé. Bien sûr, on peut toujours imaginer que il y ait des quid pro quo, des accords qui soient faits entre les agences et les sociétés du genre. Bon, on pourrait vous donner ça, mais on vous le donne que si vous nous donnez telle autre information. Donc, ça serait un petit peu gênant. Mais disons que d'une manière générale, CISPA n'est plus du tout ce qu'on craignait, c'est-à-dire une sorte de résurrection étrange de l'ACTA. Les analystes ont plutôt été satisfaits par les nouvelles versions de ce CISPA.
Ouais, moi j'ai une histoire là-dessus. Les États-Unis, ça fait toujours peur, hein, au niveau du respect de la vie privée. On sait bien depuis les attentats, on se dit c'est depuis les attentats du 11 septembre, c'est pire. Alors c'est pas pire du tout. C'était déjà pire avant ça. Il y a un livre que je recommande si vous êtes intéressé par cette histoire. Ça s'appelle The Master Switch. Donc c'est le levier de commande centrale. Et il raconte là-dedans qu'à l'époque, le gouvernement des États-Unis a favorisé une société qui s'appelait AT&T. Et qui avait un monopole sur la téléphonie. Et la raison là derrière, au final, c'est que ça leur permettrait d'avoir un seul point d'accès où eux pouvaient mettre leur mouchard, leur petit logiciel d'espion, et avoir accès à l'intégralité du trafic aux États-Unis. Ça a été découvert, ça a fait un énorme scandale, et puis on l'a oublié tout aussi vite. Donc cette histoire de problème de comment l'État gère les données de sociétés privées, c'est quelque chose de pas nouveau aux États-Unis, et moi je suis toujours pas confiant qu'ils le gèrent très bien, donc quand je vois qu'ils mettent de l'eau dans leur vin peut-être dans certaines lois, je doute quand même que ce soit vraiment tout, qu'on nous dise tout. Je suis pas pour la théorie du complot la plupart du temps, mais là-dessus...
Sauf quand il y a un complot.
Sauf quand il y a un complot, exactement.
Bon, ce qui est étonnant par
comme
rapport
comme le disent certains, c'est pas parce que je suis paranoïaque que tout le monde ne me regarde pas, c'est ça?
C'est exactement ça, oui.
Je pense une différence qu'il y a avec SOPA, hein, aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même plus de sociétés qui sont derrière CISPA. J'étais en train de revoir l'article. Il y a des sociétés comme Facebook qui, de toute façon, donnaient déjà leurs données au gouvernement américain, AT&T, Intel, Microsoft, IBM, Verizon. Alors, il y a quand même pas mal de gens. Il y a même une discussion pour savoir que c'est Google qui était contre SOPA, maintenant aurait aidé dans l'élaboration de cette loi. J'écoutais.
Alors, juste pour préciser, la raison pour laquelle ils sont derrière, c'est que ça les dédouane légalement du fait de partager leurs informations avec des agences gouvernementales. Donc, effectivement, s'ils peuvent passer la patate chaude à quelqu'un d'autre, bon, ils sont pas contre, quoi.
Moi, je sais pas. Ce qui me semble, c'est que par définition, il y a des gros lobbies qui essayent de travailler pour pouvoir faire passer certaines lois aux États-Unis. Et pour moi, j'ai écouté un peu Léo Laporte, il en parlait sur son This Week in Tech. Et pour lui, à qui quand même je fais un peu confiance, il disait que c'était un, si on voulait bien, une sorte d'hydre de SOPA qu'il était contre.
D'accord. Bon, écoute. C'est effectivement un avis dont on peut, auquel on peut faire confiance. Je conclurai ce sujet sur CISPA avec un mot d'esprit de Outdoc, qu'on connaît bien dans Upload, qui nous dit « CISPA toi, c'est donc ton frère ». Je la trouve pas mal. On continue avec le tribunal, enfin un juge qui regarde Apple et Samsung un petit peu sévèrement, qui leur secoue le doigt devant le visage et qui leur dit bon bah maintenant vous allez vous mettre dans une salle et vous parler parce que j'en ai marre de toutes vos conneries de procès interminables sur des brevets ridicules. Donc il a mandaté le fait que les présidents de Samsung et Apple se rencontrent dans, et leurs équipes légales bien sûr se rencontrent dans les c'était dans le mois je crois pour discuter, au moins essayer de discuter d'une résolution entre guillemets pacifique à leur procès fleuve. Donc ouais. Ça c'est, on risque d'avoir une rencontre au sommet entre Apple et Samsung. On risque pas d'ailleurs, ça va être le cas. Une rencontre au sommet entre Apple et Samsung. Est-ce qu'ils vont régler le problème comme ça en se rencontrant? J'en doute, mais bon. À mon avis, ils seront de retour au tribunal dans pas longtemps.
Si on regarde, ils sont, je crois, pratiquement sur quatre continents en procès. Ils ont des procès en Allemagne qui font beaucoup de bruit, en Australie qui font beaucoup de bruit, en Corée. Enfin, c'est des centaines de millions de dollars qui passent là-dedans. Il y a, pour comparaison historique quand même aussi, on se souvient Larry Ellison et Larry Page qui avaient dû se rencontrer et ça n'a rien donné du tout. À mon avis, ils sont pas prêts d'arrêter de se foutre sur la gueule. Ils ont du plaisir. Ils essaient de trouver l'arme atomique, mais ils la trouvent pas.
Il continue.
Écoute, ouais, Apple a engagé beaucoup de gens qui parlent le coréen aussi, donc voilà, si vous parlez coréen,
Oui, effectivement. Bah, écoute, tant que les guerres se situent à ces niveaux, c'est peut-être un moindre mal. En tout cas, effectivement, je doute qu'ils trouvent une solution parce que Samsung, quelques jours après cette annonce, a refait un autre procès sur, arguant du fait que Apple, contrevenait à 8 de leurs brevets supplémentaires. Donc, ils n'enterrent pas la hache de guerre. Un autre procès qui est relativement intéressant aussi, c'est un procès que fait le gouvernement américain contre les Apple et les éditeurs parce qu'ils arguent du fait que les éditeurs de livres électroniques, auraient se seraient mis d'accord sur les prix à fixer sur la plateforme iBooks. Et c'est intéressant de voir que Apple se retrouve dans l'histoire parce que Apple finalement, enfin, très sincèrement, c'est une histoire très compliquée à laquelle je n'ai pas tout compris. J'ai lu trois explications différentes et entendu trois explications différentes. C'est un modèle, le modèle des agences qui n'est pas le même que le modèle des boutiques et qui fait que quand c'est fait comme ça, bah, ça va pas alors que quand, en gros, hein, je résume et je suis sûr que je vais dire des bêtises. Le cœur du problème, c'est que tous les éditeurs et Apple qui leur a autorisé à fixer les prix, ce qui me paraît normal, mais tous les éditeurs se sont mis d'accord pour avoir les mêmes prix sur le iBook Store et donc pour éviter la concurrence. Le problème, c'est qu'ils étaient en train de combattre Amazon. Et ils essayaient de d'étendre le marché au-delà d'Amazon et effectivement ils ont réussi puisque le marché s'est un petit peu étendu avec le Nook de Barnes & Noble, etc. Mais aujourd'hui il y a une enquête qui viserait à les condamner. Le problème c'est que la collusion est tellement difficile à prouver dans ce genre de cas que je suis pas certain qu'ils réussiront à faire quoi que ce soit, mais si on pouvait voir le prix des livres baisser sur les formats électroniques, ça serait pas plus mal parce que c'est vrai que les prix sont quand même restent assez élevés pour un contenu qui est pour le coup le plus facilement distribuable par en format électronique quoi.
Mais moi, j'ai aussi pas une ou deux une ou deux de ces sociétés qui avaient qui plaident coupable. Peut-être que j'ai mal lu, hein.
Ah, c'est possible. Écoute, je t'avoue que moi, je me suis perdu dans la forêt des articles. Ça me paraît très étrange parce que si Hyundai plaide coupable, du coup, ils sont tous dans le sac, mais c'est possible.
Mais je crois que il y en a deux qui sont prêts à collaborer avec le gouvernement et deux autres qui ne veulent pas le faire. Donc ils peuvent avoir peut-être de l'information. Moi, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que d'accuser. Alors on peut accuser Apple de plein de choses, hein, d'être fermé, de pas laisser des gens rentrer sur son système. Mais de ça me semblait suspect parce que la règle d'Apple, ça a toujours été de laisser les personnes, c'est-à-dire le développeur de son application ou la personne qui a un e-book, d'avoir son propre prix. Donc,
tant qu'ils prennent leur 30%, eux, ils sont contents.
Exactement. Donc c'est difficile d'accuser Apple d'avoir voulu augmenter les prix ou d'avoir voulu fixer les prix quand ils laissent le choix aux éditeurs ou aux créateurs de contenu de fixer leur propre prix. Donc,
Pas vraiment, parce que ce qu'ils disent, l'accord qu'ils ont, c'est de dire vous devez nous garantir le prix minimum. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire qu'une fois que tu garantis un prix minimum, les autres, ils vont pas vouloir. Tu crois qu'Amazon va dire ah oui, mais chez Apple, c'est 9,99, donc allez, nous, on va le faire à 15. Ils peuvent pas. Donc, c'est là où il y a quand même une sorte de fixation du prix, parce que vu le poids d'Apple, je pense que c'est un petit peu ça l'angle, d'après ce que j'ai compris.
Effectivement, oui. Ça serait logique. Effectivement. Bon, encore dans le domaine légal et dans le domaine super compliqué auquel je ne comprends pas grand-chose non plus, et c'est vraiment, vraiment compliqué, c'est l'histoire du procès entre Google et Oracle, que tu évoquais, Benoît, il y a quelques minutes, pour la question de Java, qui est utilisé par Google. C'est un... Bon, comment décrire Java ? C'est un langage de programmation qui nécessite un environnement de développement et de travail et pour tourner sur les différentes machines sur lesquelles il tourne. Donc Google l'utilise sur Android et Oracle a racheté Sun qui en était le développeur. Une partie de cet environnement Java est en open source, donc libre d'utilisation, mais... Une autre partie, enfin les API, les tuyaux qui permettent d'accéder au cœur des fonctions, ne sont pas eux utilisables sans licence, ou du moins si.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ils sont écrits sans licence, ça veut dire qu'ils ne se conforment plus avec l'open source. Pour se conformer avec l'open source, il faut que les programmes qui les utilisent soient open source et libres d'accès eux aussi, ce qui voudrait dire que les programmes écrits pour la plateforme Android devraient être libres d'accès et open source. Si cette Oracle a gain de cause dans l'histoire, si Google auraient effectivement dû prendre une licence et qu'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que de fait, leur environnement et les programmes rattachés sont eux aussi en open source et libres d'accès. Donc ça serait évidemment une catastrophe pour énormément de développeurs qui développent sur Android. Il est peu probable que ça se produise comme ça au final, mais oui, vas-y Benoît.
Bon, moi, alors je dois dire, pour être que tout le monde sache, je travaillais chez Google pendant un peu plus de 2 ans ici à Dublin, c'est la raison pour laquelle
c'est vrai,
je suis ici aussi. Donc j'ai un parti pris parce que j'aime toujours bien Google. J'ai beaucoup suivi ce procès. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce que voulait faire Oracle au début, c'était interdire la vente d'Android aux États-Unis. Et du coup, Google aurait dû payer des milliards, évidemment, ouais. Et ils essayaient de le faire via leurs patentes. Ah, les patentes. Alors le problème qu'ils ont eu, c'est
leur brevet.
Google... leur brevet. Pardon. Merci. Et le problème qu'il y a eu, c'est que des juges se sont penchés sur ces patentes et ont dit que visiblement, elles n'étaient pas entièrement valides. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés parce que eux, ils avaient déjà les lumières dans les yeux, comme ça, des milliards qui arrivaient. Et puis, du coup, ils se sont retrouvés avec un procès. Ils ont dit, bon, OK, on va laisser tomber les patentes et puis on va faire un procès sur du copyright. Et du coup, on tombe sur une situation complètement folle où on se demande quel est le droit de copyright sur des textes qui sont des textes informatiques faits dans un langage qui s'appelle Java. Et on va arriver, à mon avis, vous allez rire dans ce procès, parce qu'on va avoir des informaticiens et des avocats qui vont parler de langue informatique. Enfin, à mon avis, on n'a pas fini de rigoler, mais ça semble plutôt mal parti pour Oracle. C'est pas tout à fait perdu, mais on parle plutôt maintenant de dizaines de millions ou de centaines de millions, mais c'est quand même un ordre de magnitude vraiment inférieur à ce qu'ils espéraient.
Ouais. Et comme le dit Tinus dans la chatroom, explique Java à ta grand-mère, mission impossible. Bon, c'est pour ça que je ne me lancerai pas dans cette explication. Autre commentaire sur ce sujet?
Bon, moi, j'ai rien à dire, à part que.
Ok, en Suisse, merci. On passe à la suite. Non, okay. Pardon, vas-y.
Non, une petite histoire, c'est qu'en Suisse, on n'aime pas Larry Page. Pourquoi? Parce que pendant la Coupe de l'América, qui est une course en bateau, il a battu le bateau suisse à Lingui et il nous a flanqué une raclée pour la deuxième fois. Alors, on l'aime pas. Donc, on ne doit pas être les seuls à pas aimer Larry Page. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis.
Oui,
mais
non,
en tout cas, il a des milliards.
Ça, oui, il a ses dollars pour lui tenir chaud. Ça va, je pense qu'il a pas besoin d'amis. Donc vous préférez Larry Ellison en fait.
Larry Ellison, c'était faux. Je disais Larry Ellison, je me suis dit,
c'est Ah Larry pardon, Page. D'accord, oui, je me disais bien je Larry Page ne oui, fait oui. pas de voile.
Exact, Larry Ellison.
Oui, donc lui il a moins de milliards du coup, Larry Ellison pour se tenir chaud.
Oui, puis bon. Demandez à la communauté OpenOffice, etc. On peut les énumérer, les communautés qui aiment pas beaucoup les pratiques d'Oracle. Mais,
Oui, ça c'est sûr, oui. Bah, oui, bon, bref. Enchaînons avec la méchanceté de Google qui fait cette division d'action. Qui là aussi est un petit peu casse-gueule à expliquer, mais je vais m'y employer. Google, c'est un lapsus révélateur. Google a annoncé la semaine dernière une division d'action. Je ne sais pas quel est le terme technique, mais je vais vous expliquer ça. Ça va. Ah tiens, Lionel G dans la chatroom me dit que Larry Ellison est plus riche que Larry Page. Vraiment? En es-tu sûr? Bon, il faudra vérifier la chose. C'est bien d'avoir la chatroom comme ça, j'ai les corrections en direct. J'ai peut-être l'air d'un imbécile pendant quelques instants, mais au moins l'émission garde son intégrité et son sérieux, donc c'est déjà ça. Google a annoncé il y a une petite semaine qu'ils allaient diviser les actions en bourse hein, de Google. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour chaque action qui existe actuellement, les propriétaires de ces actions auront, après la division, deux actions. Une qui donc aujourd'hui elles valent à peu près $600, chacune de ces deux actions vaudra 300, normal, mais une de ces actions sera de classe A et l'autre de ces actions sera de classe C. Les actions de classe A ont un droit de vote, les actions de classe C n'ont pas de droit de vote. Il y a aussi des actions de classe B qui sont dans l'escarcelle de Larry Page, Sergey Brin et Eric Schmidt, qui sont des actions qui ont 10 droit de vote par action. Et le but de tout ça, c'est de ne pas diluer le contrôle de Google. C'est certains ont dit que c'était une décision assez evil, comme en réponse au Don't be evil, le motto de Google. Mais moi, je suis pas convaincu que ça soit aussi méchant que ça, parce que ça permet donc de garder le contrôle de la société, de ne pas trop le diluer, et ça leur permet en même temps d'attirer des talents et des ingénieurs en leur donnant des actions qui resteront des actions qui auront une valeur importante, hein, bien sûr. Et alors que ces actions n'auront pas en même temps de droit de vote. Donc, si vous ne vous inquiétez pas d'avoir le droit de vote, vous voulez juste ramasser les brousoufs, vous pouvez vous contenter tout à fait d'actions de classe C. Mais pour d'autres personnes, évidemment, les actions de classe A seront plus importantes. Les différentes actions vont sans doute avoir une valeur différente au bout du compte. Mais c'est une nouvelle qui a été très importante la semaine dernière. Nicolas Popi nous dit Larry Ellison vaut 36 milliards et Larry Page seulement 18,7 milliards. Source Forbes 2012. Bon, bah ok, je m'avoue.
Allez, écoute, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, pour deux raisons, quoi. Tout d'abord, tu l'as bien dit, toi. Moi, je bossais chez Google. La première fois où j'ai reçu mon bulletin de vote, là, je n'ai même pas compris de quoi il me parlait. Je savais même pas que j'avais un droit de vote. ça m'intéressait pas. Moi, je voulais que l'action monte. Et voilà, comme tu l'as dit, donc là, je te rejoins à 100%.
Ouais. Oui, puis, l'idée, c'est que tu fais confiance à ceux qui décident. T'as pas forcément besoin de décider toi-même, quoi.
Bah oui, c'est
enfin,
ça.
Google, la gestion de Google, c'est compliqué.
C'est ça. Alors, du coup, qui est-ce qu'on préfère? On préfère que ce soit les trois qui ont créé des milliards de dollars, une des meilleures sociétés au monde, qu'on l'aime ou pas, en tout cas en termes de valorisation, ou bien est-ce que ce soit un fonds de pension quelque part à New York, en Arizona ou même en Europe, qui décide de la marche à suivre des affaires de Google? Je crois que c'est vraiment pas une question difficile à se poser. Ouais. Même chose pour Facebook, etc. Donc, ouais, on peut leur chercher la petite bête. Ils font pas toujours bien Google, mais ça, c'est vraiment poussé, quoi.
Oui, effectivement. Mike, non?
C'est toujours dur de parler de Google après Ben, parce qu'étant donné qu'il a été un ex-Googler qui parle très bien, c'est toujours des... Mais je suis d'accord avec toi pour ça. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, le droit de vote, c'est bien, mais c'est bien pour quelqu'un qui a beaucoup d'actions. Un ingénieur qui en a une ou deux, de toute façon, son droit de vote, il sera tellement dilué dans la masse que son avis comptera finalement peu. Donc, je trouve.
Oui, mais chaque vote compte, hein. C'est le principe de la démocratie, non?
Oui, je suis d'accord, mais il faudrait se regrouper énormément pour que le vote compte. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est tout ce que les boîtes américaines font pour leurs employés et pour conserver les ingénieurs. Parce que on dit toujours que la bataille du futur, c'est la bataille des talents, la bataille des cerveaux. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et Facebook et Google qui se battent pour vraiment obtenir des bons talents et ils leur donnent ce qu'on est, je sais pas, des actions, donc de l'equity dans leur boîte. Et je trouve qu'en Europe, en tout cas quand je prends l'exemple de la Suisse, peu de sociétés font ça, peu de sociétés vont jusque là. Et ce modèle américain, il fait gagner tout le monde finalement. Et je trouve que bravo à Google d'aller dans cette direction. J'aime bien.
D'accord. Ben écoute, ça conclura notre première partie, ce commentaire de Mike. Et on fait une toute petite pause pour vous parler de notre sponsor qui est comme toujours la boutique No Watch. Et vous savez qu'il y a des changements qui se passent dans la boutique No Watch, ou plutôt devrais-je dire les boutiques No Watch, puisque aujourd'hui, si vous allez sur nowatch.net et que vous cliquez sur le bouton boutique, vous verrez que c'est boutique au pluriel. Il y a deux boutiques aujourd'hui. Le premier qui est le workshop que vous connaissez bien, qui est en fait notre boutique Spreadshirt où vous pouvez acheter des t-shirts aux couleurs de vos podcasts préférés. Cette boutique va fermer incessamment sous peu, pour quelques mois. Normalement, ça devrait être dans la semaine. Je veux rien promettre parce que ce genre de choses est toujours décalé, mais normalement, c'est dans la semaine. Donc, la boutique fermera et reviendra dans quelques mois en tant que workshop. En tout cas, c'est l'idée qui permettra de concevoir vous-même vos t-shirts. Mais au moment où cette boutique fermera, il y aura le Fan Shop. Et le Fan Shop, c'est une série de petits objets qui sont conçu en fait par et pour No Watch, avec des badges, des décalcomanies, des écussons à coudre, etc., etc. On vous en a déjà parlé un petit peu. Et ce sont des objets vraiment de grande qualité que les instances de No Watch vont elles-mêmes emballer et envoyer avec leurs petites mains. Comme le dit Cédric, ça sera de la sueur de podcasteurs incluse dans le paquet. Donc ça nous permettra de faire un petit peu plus de sous et donc ça vous permettra de nous soutenir un petit peu plus encore quand elle ouvrira. Vous allez voir, il y a des petits teasings qui commencent à arriver. Il y a le nouveau logo No Watch qui commence à être aperçu à droite à gauche, vous verrez que c'est des objets de qualité et on espère que vous les apprécierez. En tout cas, pour tous ceux qui font le choix de nous soutenir avec l'ancienne ou la nouvelle boutique, on vous remercie chaleureusement et on vous engage à le faire si vous voulez nous filer un petit coup de main. Donc voilà pour notre sponsor et on continue avec les news et rumeurs. Les news et rumeurs, c'est une partie où on parle beaucoup plus rapidement de chaque sujet. Certains dans la chatroom les appellent les app-infos, c'est-à-dire que je parle un tout petit peu du sujet en question et si jamais vous avez un commentaire à faire, camarade co-animateur, vous m'interrompez avec un bip ou un buzz ou un quelque chose et vous faites votre commentaire. S'il n'y a pas d'interruption, je passe au sujet suivant.
Ça va buzzer alors.
Ah, c'est possible, oui, effectivement. Premier sujet, c'est le Twitter's Innovator Patent Agreement, ou l'accord pour des pour les brevets des innovateurs, qui est un accord que Twitter a mis en place, a signé avec tous ses ingénieurs, qui promet à ses ingénieurs que les brevets qu'ils déposeront en leur nom ne seront pas utilisés pour des démarches offensives, mais uniquement pour des démarches défensives. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait de ce développeur, de cet ex-développeur de Yahoo qui disait « Moi, quand j'ai déposé ce brevet, enfin quand Yahoo a déposé ce brevet que j'avais créé, il m'avait assuré qu'il ne l'utiliserait pas pour attaquer qui que ce soit. Et aujourd'hui, ils ont attaqué Facebook, je me sens trahi. » Et là, Twitter a déclaré « On a besoin des brevets parce que le monde est fait comme ça aujourd'hui et c'est une arme importante dans l'industrie tech, mais on vous promet qu'on les utilisera pas en défensif. » Alors ensuite, le débat peut avoir lieu entre qu'est-ce que défensif et offensif, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que une attaque préemptive, c'est de l'offensif ou du défensif ? Bon, mais en tout cas, beaucoup de gens ont dit que ça allait dans le bon sens et que c'était peut-être une marche, un exemple à suivre.
Oui, ils ont raison sur le fond. C'est toujours plus facile de promettre quand on n'a pas. Twitter est connu pour être extrêmement pauvre en brevets, et c'est facile de venir donner la leçon aux autres. Alors si IBM ou Microsoft ou Google l'avaient fait, alors là, j'aurais dit chapeau, bravo. Pour Twitter, bravo sur le fond, sur l'intention, très juste, très bien, mais voilà, pas très difficile pour eux de le faire.
D'accord. On continue à parler de brevets et Facebook qui visiblement trouvait qu'ils avaient un petit peu trop d'argent dans les poches après avoir dépensé un milliard pour Instagram il y a 2 semaines, se sont dit bon, si on dépensait encore 550 millions de dollars, et ils ont trouvé Microsoft qui leur a vendu 650 des environ 900 brevets qu'ils avaient achetés à AOL il y a un mois seulement pour 1 milliard de dollars, hein, toujours. Donc, je résume, Facebook a acheté un peu plus de 600 brevets de AOL à Microsoft pour un peu plus de 500 millions de dollars. Microsoft garde une licence d'utilisation pour tous ces brevets, récupère la moitié de la somme qu'ils ont mis et conserve 275 brevets d'AOL. Évidemment, là encore, on pense à Facebook et au procès que Yahoo est en train de faire à Facebook. Clairement, non seulement ils avaient fait un contre-procès en disant on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se coucher, ce procès que nous fait Yahoo est ridicule et on va se battre contre eux de la manière la plus vigoureuse qui soit. Là, clairement, ça va certainement être des armes utilisables pour ce combat-là et on se rend compte que Facebook est très sérieux quand ils disent on va pas se laisser faire, quoi. Ça fait presque froid dans le dos, quoi. Ils ont de quoi se défendre.
Ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est qu'on voit une fois de plus que Microsoft a un vendeur à sa tête et que Steve Ballmer, c'est le roi du deal. Après ce qui s'est passé avec Nokia, moi, je trouve que Steve Ballmer, pour la technologie, on sait, il est nul. Mais pour les deals, c'est franchement le meilleur. Certain, oui. Donc, chapeau à Microsoft, là, qui fait vraiment une jolie affaire. Et puis, tant mieux pour Facebook.
Et moi, je te rajouterais une chose, chapeau à Microsoft quand même, parce qu'on la critique en disant que oui, ils sont nuls, ils sont mauvais par rapport aux autres, mais ils ont quand même fait un dernier quarter qui, si j'ai regardé, est plutôt pas mal. Donc, ils arrivent quand même à générer de l'argent encore, malgré qu'ils sont, on les traite d'ancêtres et ils font même plus partie de la technologie.
C'est vrai que, bah, moi, c'est ce que je répète à qui veut bien l'entendre. Microsoft est chez les technophiles, souvent un petit peu sous-évalués comme une société un petit peu vieillotte, pour moi, c'est certes un mastodonte, mais aussi ils réussissent généralement à évoluer un petit peu lentement, mais ils y arrivent et ils ont tellement de force et tellement de puissance, pas seulement marketing, hein, de développement derrière, qu'ils finissent par aller là où il faut. Et c'est un exemple avec, enfin, là où il faut, on ne sait pas, mais ils ont des décisions parfois surprenantes et intéressantes. Windows 8 est un énorme pari, quoi, par exemple. Moi, j'en parle beaucoup régulièrement, mais le fait de et Windows Phone 7 aussi, le fait de balayer de la main Microsoft, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien la technologie, en fait.
Écoute, moi, je peux te dire, chez Google, on voyait les gens essayer de parler aux petites entreprises et moyennes entreprises, ça passait pas. Je veux dire, il n'y a pas de contact. Je suis arrivé une fois dans un meeting, dans une réunion, donc il y avait quelqu'un de Microsoft qui parlait à des petits patrons. J'étais incroyablement surpris par la relation qu'ils avaient. Ils se comprenaient, quoi. Il y avait quelque chose dans cette salle que jamais Google a réussi à faire pour le moment. Donc, je suis d'accord avec toi qu'ils font quand même bien, quoi.
Ne sous-estimons pas Microsoft. Autre, en parlant de Microsoft et de Windows Phone 7, il y a eu deux petites contradictions la semaine dernière à propos de la compatibilité des téléphones actuels sous Windows Phone 7 et leur accès à Windows Phone 8, ou en tout cas la mise à jour Apollo qui devrait arriver dans quelques mois. Il semblerait que la plupart des téléphones Windows Phone 7 d'aujourd'hui n'auront pas accès à la mise à jour Apollo. Certains ont tiré un petit peu la gueule, ce que je peux comprendre. Mais bon, moi, ça ne fait que confirmer ma suspicion depuis ce que je dis depuis des mois et des mois. Windows Phone 7, c'est un petit peu le tour de chauffe jusqu'à ce que la vraie bestiole arrive avec Windows 8, c'est-à-dire la synergie Windows 8, Windows Phone 8, et c'est là que les choses vont vraiment démarrer. Et là encore, on aurait tort de sous-estimer Microsoft.
Moi, je dirais une seule chose par rapport à ça, c'est que on aime ou on n'aime pas Apple, mais c'est les seuls qui ont réussi à trouver un moyen pour pouvoir déployer sur tout leur mobile chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Android, ça fonctionne mal. Windows, ça fonctionne mal. Donc, même si je suis pas un Apple fanboy, je dois dire, pour l'instant, je reste sur mon iPhone.
Bah, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent oui, il y a une obsolescence programmée chez Apple. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et puis surtout, c'est vrai que la plupart des appareils Apple fonctionnent encore très bien. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir la dernière version du système d'exploitation, mais ils ont eu, en tout cas pendant plusieurs années, les versions suivantes. Et moi, mon iPhone 1 que j'ai acheté, donc maintenant il y a presque 5 ans, il fonctionne encore. Et il est passé de moi à ma mère à ma tante. Et ma tante, elle est très contente de l'avoir. Et bon... C'est pas une bête de course, hein, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'un truc monstrueux et qui même ne connaît pas très bien les smartphones, eh ben, elle en est très contente. Donc peut-être que les choses vont changer dans le monde de la téléphonie mobile, puisque Intel a annoncé ses premiers téléphones, ou en tout cas les premiers processeurs pour téléphones, qui vont être commercialisés très très vite en Chine. C'est Lenovo et une autre marque dont j'ai oublié le nom, qui va commercialiser les premiers téléphones avec puce Intel, ce qui est une annonce importante parce qu'Intel a souvent eu des soucis pour faire des puces qui avaient de faibles consommations. Et là, s'ils réussissent à effectivement se lancer sur ce marché avec succès, c'est un énorme changement de situation dans l'industrie des processeurs, parce que Intel a largement été absent du marché des mobiles jusqu'à maintenant. Et donc on voit se croiser en fait ARM, Windows va tourner sur les processeurs ARM, et en même temps... Oui, pardon, dans la chatroom, on me dit Intel. Non, il faut prononcer Intel. désolé, c'est vrai. Et la prononciation officielle, c'est Intel.
Passé, c'est bien.
Oui, c'est vrai. Et donc, il y a ce croisement des technologies et ça souligne une fois encore l'importance que prend le mobile. On n'avait pas besoin d'Intel pour nous le prouver, mais c'est encore une fois une preuve supplémentaire. Petit mot à propos de Apollo, donc la prochaine version de Windows Phone 8. Il est très probable qu'elle offre des options de customisation supplémentaires aux fabricants. Ça n'était pas le cas de Windows Phone 7. Ils n'iront certainement pas aussi loin que la customisation possible de Android. Mais par contre, c'était l'une des raisons pour lesquelles Microsoft n'arrivait pas à gagner assez de traction avec les fabricants, c'est qu'ils ne permettaient pas aux fabricants de customiser leurs machines. Là, il semble qu'ils autorisent sans doute un petit peu plus la customisation avec la prochaine version.
Moi, j'ai une question. Est-ce que Apollo, ça sera la version qui sera aussi pour les tablettes Windows, celle-ci?
Alors, bah non, la version pour les tablettes Windows, ça sera Windows 8. C'est le système d'exploitation Windows 8
d'accord.
qui est sur ordinateur et sur tablette. Et là, ça sera une version uniquement téléphone. On n'a pas assez parlé d'Apple aujourd'hui, donc non, il y avait une petite histoire, une sorte de rumeur Philippe Stark, le designer, a fait courir en disant oui, je travaille avec Apple sur un produit révolutionnaire qui sera là dans 8 mois. Alors bien sûr, tout le monde a accouru intellectuellement à l'idée de la iPanel ou iTV, le iPanel étant le dernier nom dont on entend parler, avec des fonctionnalités bien bien plus vastes qu'une simple télé, mais vraiment un panneau d'affichage multi-utilisation. Et donc tout le monde a pensé à ça, et en fait Apple s'est fendu d'un communiqué de presse immédiat en disant Apple ne travaille pas sur un produit avec Monsieur Stark. Donc ensuite il y a eu des rumeurs selon lesquelles ça serait peut-être en fait un yacht, un qui aurait une technologie révolutionnaire. Voilà, le fameux yacht de Steve Jobs, enfin le yacht auquel travaillait Steve Jobs aussi sur lequel Stark aurait collaboré. Donc on est bien loin de...
Moi, quand j'ai vu cette rumeur, j'y ai pas vraiment cru parce que je me dis, Philip Stark, c'est une personne très connue qui fait des très belles choses, mais Apple ont leur Johnny Hives qui fait des trucs incroyablement beaux et qui jusqu'à maintenant a été leur source d'inspiration. Donc je me demande à quel point ils iraient vers une autre personne externe à la boîte Apple. Donc j'y ai
oui,
pas
et surtout
cru.
Le style de Stark, c'est pas vraiment le même. C'est un petit peu Stark. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un petit peu des pointes et des trucs un peu agressifs. Apple, c'est tout sauf ça, quoi. C'est genre, s'il y a un bouton quelque part, déjà, ça, c'est un bouton de trop. Donc, il faut que tout soit plat, doux, soft et tout. Donc,
Alors, moi, j'ai une idée, peut-être. Pourquoi pas Philip Stark designer le campus Apple qu'ils sont en train de construire? Là, je le verrais plus faire quelque chose ou aider Apple.
Effectivement, certains ont évoqué également certaines parties des Apple Store. Bon, on en saura sans doute plus dans 8 mois, comme il le disait. Nouvelle suivante, WikiLeaks serait en train de produire une émission de Julian Assange. Bon, je ne ferai pas de commentaires, je dis pourquoi pas, j'attends de voir.
Écoute, ils ont fait la première déjà, elle est sortie, c'était
Je ne l'ai pas vue.
C'est avec un des responsables du Hezbollah. Donc ça commence fort.
Ah effectivement oui.
Ah ouais non il est parti direct. J'ai lu un petit peu. Oui alors évidemment comme on peut s'attendre c'est un peu contre. Voilà c'est bon. Écoute à voir peut-être la suite. C'est toujours un poil à gratter hein, ce gars donc moi j'aime bien.
Moi j'aime pas forcément la personne mais j'adore WikiLeaks et j'adore le motto qui dit power to the people.
Je lis le commentaire de F. Croiseau dans la chatroom qui nous dit « C'est le coiffeur, Julien Dessange ?» Pas mal, pas mal. Pardon, je le note pour un possible titre pour l'émission. news suivante, Google Drive arriverait enfin dans les jours qui viennent. Il y a énormément de rumeurs et de fuites qui ont été... aperçu à droite et à gauche. Je vais pas te poser la question, Benoît, puisque peut-être que tu en avais entendu parler pendant que tu travaillais chez Google. Mais bon, ça arriverait enfin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que SkyDrive de Microsoft, qui est l'équivalent un petit peu du stockage en ligne de Microsoft, a eu une mise à jour majeure aujourd'hui. Et il se comporte un petit peu comme Dropbox aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des applications sur tous les systèmes d'exploitation et sur toutes les plateformes mobiles. Et bon, pour ceux qui connaissent pas Dropbox, c'est un super service, mais SkyDrive se comporte désormais quasiment de la même manière, étant donné que c'est intégré à tous les services Microsoft. Évidemment, on peut lui prédire un avenir encore plus beau qu'il n'a été jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez une solution propriétaire Microsoft, qui encore une fois ne riez pas, Microsoft, ils font des choses très très bien. Vous pouvez aller voir du côté de SkyDrive. Et comme je le disais, c'est disponible sur Mac et Windows. C'est en pré-version pour le moment. Mais j'imagine que ça sera en version finale quand Windows 8 sera disponible.
Moi, je serais assez intéressé.
Je serais assez intéressé
pour SkyDrive parce que je pense qu'au niveau de l'entreprise, donc pas au niveau des geeks qui ont des Macs, mais au niveau de l'entreprise qui ont des Windows, le partage de fichiers se fait encore par des emails ou ça ne fait pas à travers des liens sur un serveur. Donc, je pense que SkyDrive peut être extrêmement utile au sein de l'entreprise comme un Dropbox pour pouvoir partager des liens et avoir plus de flexibilité quand on partage des documents. Et ça manque pour l'instant chez Microsoft.
C'est vrai. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Tu vas pas mettre parce que les serveurs seront quand même chez Microsoft. Tu vas pas mettre des documents confidentiels là-dessus. Mais dernière série de news, Anon Paste et Anon Tunes. On va passer très rapidement là-dessus. Anon Paste, c'est un service. Vous connaissez Pastebin, peut-être. C'est un service de copier-coller de texte qui sert à plein de choses et notamment à certains pour diffuser des informations confidentielles parce que c'est relativement anonyme. Eh bien, Anonymous est en train de construire un outil équivalent et véritablement anonyme, conçu sur le logiciel open source de Sébastien Sauvage, un petit français, qui s'appelle Zerobin. Donc ça, c'est une première information. L'autre information que j'ai trouvée intéressante, c'est Anon Tunes. Anonymous serait en train de construire, d'ailleurs est en train de construire un outil. Alors, encore une fois, on dit Anonymous, ça veut rien dire. Hein. Anonymous, on ne sait pas qui c'est, ça peut être n'importe qui se réclame du collectif Anonymous. Ça peut être des gens complètement différents qui ne se connaissent même pas. Mais bon, là, Anonymous est en train de construire une sorte de iTunes ou Napster ou quelque chose comme ça, pour complètement anonyme et conçu par Anonymous, c'est dans le titre. Le principe est intéressant, c'est que ils ne veulent pas héberger ou même mettre de liens vers des fichiers en partage. Ils veulent simplement utiliser les ressources qui existent déjà, comme YouTube par exemple ou d'autres, SoundCloud, etc. C'est-à-dire que vous feriez une recherche et lui, il se démerderait pour aller chercher toutes les ressources qui existent déjà sur le net et vous organisez une liste de lecture ou simplement des résultats de la recherche et ensuite vous écouteriez vous-même le morceau qui serait inclus dans la page web où vous avez fait votre recherche sur iTunes en embed. Alors, c'est en tout début de développement, ça marchote, on va dire. Il est possible que si ça prend beaucoup d'importance, on ne sait pas si ça sera facile à bloquer ou pas. On ne sait pas non plus si ça sera illégal, a priori non, puisque c'est simplement des embeds de fichiers existants ailleurs qui sont, eux, plus ou moins légaux. Mais bon, on verra le développement que ça aura. Pour le moment, c'est en tout cas quelque chose d'intéressant parce qu'ils veulent pas faire les choses de manière... Ils vont pas prendre les choses de front. Ils vont simplement se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses marchent et qu'elles soient et qu'elles marchent sur le long terme, autant du point de vue technique que du point de vue légal. On verra ce que ça donne. Et donc, dernière chose, il y a j'allais conclure, mais il y a un d'entre vous qui a ajouté un sujet dont il voulait parler, peut-être.
Moi, j'avais ajouté un sujet, mais c'était un sujet un peu fun parce que ça va un peu dans la direction d'Alan Tunes et je trouve que c'est le fait que MGM va ajouter 600 films sur YouTube ou sur Google Play. Ça, c'est une news qui a apparu, je crois, en fin de semaine dernière. Et ça, je trouve pas mal. Donc, MGM, c'est quoi? C'est ce grand studio américain qui a énormément de films. Et c'est vrai que maintenant, pour regarder des films, on a Netflix. Mais en Suisse, en tout cas, on l'a pas. Je sais pas si en France, on l'a.
Alors, non, on l'a pas non plus, je te confirme.
Alors, il y a aussi, comment ça s'appelle? Je connais Hulu oui. Qu'on n'a pas non plus, en tout cas en Suisse. Donc on a seulement Pirate Bay, quoi, malheureusement.
Ouais.
Et ce que je trouve bien, c'est que finalement, ils sont pas en train de faire la même erreur. Je remarque que l'industrie du disque et ils se rendent compte qu'ils doivent jouer avec l'internet. Et MGM le prouve avec les 600 films qui vont être en accès sur YouTube ou Google Play, que je trouve vraiment une bonne solution. C'est vrai que YouTube, pour l'instant, le contenu, il laisse un peu à désirer. Nous, avec Niptech Podcast, on attend bientôt de pouvoir faire du YouTube Live, parce que ça sera vraiment quelque chose de bien. Je sais que c'est déjà fait par certains, et je trouve que ça va dans la bonne direction. Donc, j'ai dit c'est bravo.
Vrai. C'est vrai que l'industrie du film, du cinéma, est plus dynamique que l'industrie du disque, oui.
Oui, et quand on voit aussi ce que Netflix est en train de faire, c'est-à-dire créer du contenu, créer des émissions, créer des épisodes, afin de fournir du contenu, je trouve que c'est vraiment une bonne solution, et puis c'est du contenu pour l'internet. Et je pense que ils sont beaucoup plus réactifs, et ça va payer pour eux.
On est d'accord, oui. Enfin, on l'espère en tout cas. Par contre, moi, j'ai pas vraiment le réflexe d'aller voir sur Google, sur YouTube, encore pour voir si un film est disponible. Je sais pas pour vous, mais
ici on a Netflix, donc c'est tranquille.
Ah, oui. D'accord, forcément, ça règle la question.
Bon, ceci dit, le contenu Netflix, on connaît bien. Si vous êtes impatient de l'avoir, soyez pas trop impatient. Si vous aimez les vieux films, les vieilles séries et quelques très très bons documentaires, c'est génial. Mais si vous voulez des nouveautés, ça y a juste pas. Mais sinon YouTube pour voir des films, des fois plutôt des cours ou des choses enregistrées, oui, mais des films jamais.
D'accord. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On n'a toujours pas de statosphère de Guillaume. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je lui passerai un coup de fil. Par contre, ce qu'on a, c'est Niptech. Les animateurs de Niptech, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission. Mais qu'est-ce donc que Niptech? Je crois que vous pouvez nous faire un petit exposé sur ce podcast plutôt sympathique qui bon. Couvre les startups. C'est quoi? C'est innovation, inspiration, et il y en a un troisième.
Alors, startup, tu l'as dit.
Et start-up, ah, d'accord, bon, bah voilà, c'était facile. Oui, donc c'est quoi alors exactement?
Bon, écoute, le pitch, c'est ça, c'est start-up, innovation, inspiration. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est parler des nouveautés qui se passent dans les petites sociétés. Alors, on parle bien sûr moins d'Apple, Google et Facebook et les autres. On s'intéresse plutôt aux petits. Alors, typiquement, on va parler de qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Kickstarter, des derniers projets des gens qui sont partis des grandes sociétés pour reformer des boîtes. Et je pense qu'on a une jolie communauté autour de ça qui s'intéresse à tout ce qui touche à l'innovation. Voilà, Mike, comment tu le dirais, toi?
Je dirais ça, je dirais qu'on a plaisir comme toi à parler tech, on est aussi des geeks.
La Suisse ne fonctionne plus bien, là.
Ah ouais, ah. J'avais peur que tu étais chez moi, ouais.
Oui. Ah, vas-y, t'es revenu.
Ah, je refonctionne, alors c'est oui. Bien. Non, je dis, voilà, notre but, c'est de parler on adore parler de... On va de choses de geek, donc ça va aussi de gadgets, de applications iPhone. On parle de nouveaux gadgets qu'on teste. Ça peut être le Kindle Touch que je viens d'avoir, au Nikon D100 5100 que j'ai dans la main. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis le but, c'est quoi? C'est de partager de l'information. On n'est pas que Ben et moi. Il y a aussi le prof du web, Mathieu, et aussi quelqu'un d'autre qui nous aide. Donc
Johan, ouais, Cohen.
Johan qui nous aide. Et le but, c'est de discuter de tech. Mais ce qui nous intéresse, moi, parce que moi j'avais deux questions, mais ça n'était pas par rapport à Niptech, c'était par rapport à toi, Patrick. Oui. Parce que je me pose des questions.
Je me sens tout à coup.
Non, c'est que nous, on parle beaucoup de start-up et de business model. Donc les business models nous intéressent. Et c'est vrai que la première question que j'avais, c'est pourquoi tu parles si bien l'anglais? Et la deuxième, c'est t'es Léo Laporte français, donc est-ce que tu peux nous expliquer ton business model? Comment tu fais pour faire de l'argent?
Première chose, pourquoi je parle aussi bien anglais? Parce que je fais des efforts, peut-être un petit peu.
Ah ok, bravo.
Non, aussi parce que ça fait des années et des années que j'écoute, que je parle. Je pense, ça sera clair pour tout le monde, une petite facilité d'oreille, certainement, mais je m'entraîne aussi beaucoup, je regarde... Bon, le truc, c'est regarder toutes vos séries télé en anglais sans sous-titres, et vous apprendrez très vite, regarder tous vos films en anglais sans sous-titres, ça sera, si vous pouvez, ça sera certainement une aide énorme. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au tout début. Et puis après, j'ai écouté des podcasts en anglais, et ça m'a aidé. C'était la phase 3, on va dire. La première phase, c'était l'école. La deuxième phase, c'était les films et les séries. Et la phase 3, c'était les podcasts. Et okay. C'est vrai que ça a aidé énormément à parler naturellement, parce qu'on entend très peu de langage naturel, même dans les médias. Et l'autre question, c'était le Léo Laporte français. Alors, c'est une description qui m'honore infiniment. pour ceux qui connaissent Léo Laporte, vous comprendrez que l'honneur est sans doute usurpé de ma part. Mais le business model, alors, écoute, c'est une très très bonne question. Le business model, c'est de tenir jusqu'à ce que les annonceurs se réveillent et se rendent compte que les émissions sur le web sont non seulement des émissions qui ont un public plutôt nombreux. Quand on compare à certaines chaînes du câble, on se rend compte que les podcasts, et particulièrement No Watch qu'on a monté avec tous mes camarades No Watchiens, avec beaucoup de gens qui travaillent très très dur et qu'on remercie tout le temps et qu'on remercie encore, c'est un vrai public. Non seulement ça, mais en plus c'est un public très qualifié qui est intéressé par des sujets précis. Donc pour certains annonceurs, c'est une valeur incroyable. Et donc notre business model, c'est effectivement de mettre de la publicité dans nos émissions. S'il y en avait un autre qui marchait, moi je serais pas contre, hein. Moi je fais du podcast depuis très longtemps, j'en ai essayé plein. J'ai essayé les donations, les machins, les trucs, c'est sympa, mais ça met pas du beurre dans les cacahuètes, j'allais dire. Ça met pas du beurre dans les cacahuètes, c'est une expression que je retiendrai. Mais oui, si tu veux, nous, l'idée de No Watch, c'est que on d'abord, c'est une passion. C'est le fait de faire de la radio ou de la télévision, entre guillemets, à la maison, entre amis, et sur des sujets qui nous intéressent, qui sont pas traités ailleurs, comme vous, j'imagine, avec Niptech. Donc, c'est un truc qu'on adore à la base parce qu'on l'adore. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'en vivre, donc de trouver les moyens possibles d'en vivre. Pour le moment, le moyen qui est le plus valable aux États-Unis, ça a l'air d'être les sponsors, donc la pub, qu'on limite bien sûr, mais c'est l'idée de base. La France semble être un petit peu en retard, mais nous on veut tenir, parce que c'est notre passion, et on veut tenir jusqu'à ce que la France soit rattrapée par la pub, et l'idée c'est que NoWatch soit déjà présent le jour où les annonceurs se réveilleront pour qu'ils disent, bon, il y a un marché du contenu, de la création de contenu sur Internet. Qui est-ce qu'on va voir? Bah, NoWatch est là, NoWatch existe déjà, donc c'est avec eux qu'on va aller parler. C'est pas évident, mais c'est l'idée.
Non, ben moi je trouve que c'est bon business model. Et ma question, ce qu'on voit aussi, on se pose souvent la question avec Ben, comment faire ou comment générer de l'argent. Bon, nous on le fait plus par passion maintenant, mais c'est vrai, il y a toujours ce côté, on veut avoir des annonceurs, mais en même temps on veut que les annonceurs correspondent à ce qu'on fait ou ce qu'on aime. C'est pour ça que je trouve que le modèle de tweet de Léo Laporte est pas mal, où il a des annonceurs, mais il fait attention aux annonceurs qu'il a parce que ils sont une partie, ils représentent une partie de sa compagnie et de sa crédibilité. Mmh. Et c'est dommage, je pensais qu'en France, y aurait plus d'intérêt pour l'instant, mais ça va venir.
Alors, ça va venir, oui, on l'espère en tout cas. Pardon, Benoît, tu disais quelque chose aussi ?
Non, je disais que c'est effectivement très européen d'avoir un peu... Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Nous, on parle beaucoup d'un Niptech, de business model, mais aussi d'attitude des gens par rapport à la création. Et le fait est qu'en Europe, il y a encore des gens qui trouvent que c'est un peu sale d'avoir des sponsors. Donc, je sais qu'il y a des gens qui s'insurgent un petit peu quand il y a des sponsors, ce qui, aux États-Unis, n'est pas le cas. Donc,
Ça arrive. Nous, on a eu différents sponsors dans différentes émissions déjà, donc ça fonctionne un petit peu. On a la chance d'avoir une audience et des auditeurs qui nous comprennent, enfin des auditeurs et des spectateurs qui nous comprennent, qui sachent qu'on est authentique et qui savent qu'on est authentique et qu'on fait ça vraiment par passion. Donc ça passe un petit peu mieux. Il y a toujours des gens qui sont mécontents, mais bon, c'est pas non plus la majorité du tout, loin de là, heureusement. Et puis Lionel G nous demande dans la chatroom, ça vous coûte beaucoup de temps ou c'est surtout de l'argent ça vous coûte beaucoup d'argent ou c'est surtout du temps? J'ai un petit peu envie de dire c'est les deux, mon capitaine. Et comme le dit Amos FR, The Watch perd de l'argent. Ouais, c'est un petit peu ça. Disons que c'est, on le voit pas bien quand on download son émission une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou qu'on écoute deux trois émissions. C'est un énorme boulot. Il y a énormément de gens qui sont engagés dans le truc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour pas grand chose, voire pour rien du tout, et qui, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'ils s'engagent personnellement de manière significative. C'est énormément de temps. Moi, j'ai un vrai travail entre guillemets, mais en réalité, j'ai un travail et demi, peut-être deux, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma journée de mon vrai travail, je commence ma journée de mon deuxième travail, qui est NoWatch. J'y passe énormément de temps pour mes émissions et pour l'organisation NoWatch aussi, en soutien aux autres qui font ça. Enfin, c'est un énorme boulot, quoi. C'est véritablement un boulot considérable. Et ça coûte de l'argent, en ce sens que on évoquait la bande passante, il y a la gestion du site, il y a des choses, des frais à sortir, il y a énormément de choses à faire, et comme bref, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse moi énormément, qui intéresse pas forcément tout le monde, mais oui, ça coûte de l'argent.
Oui, en tout cas, Patrick.
Le truc, c'est que, mais ça c'est bien, tu vois, j'aime bien parce que c'est bien, voilà, c'est bien l'esprit de Niptech, c'est vraiment le genre de discussion qu'on a. Mais ce que je peux dire, en tout cas pour prouver, c'est que, en tout cas, le Google Docs que tu as partagé avec nous, il a été mis à jour ce matin à 6h44, il m'a dit, donc visiblement, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui commence ses journées tôt et qui se dédie dès le matin, donc voilà, là, si j'ai besoin encore d'une preuve supplémentaire de ton engagement de tous les instants.
Ah bah ça, 6h, peut-être avec le décalage horaire, oui, c'est possible. Mais,
ouais,
non, mais c'est sûr que j'y passe énormément de temps, parce que le problème, c'est que effectivement, quand on essaye de faire ces émissions, on les fait, bon, comme on le disait, par passion, et on est tous très sérieux. Comme vous le savez, chers auditeurs, vous remarquerez que, on va dire 90% des émissions de No Watch, c'est la déconne, on se marre bien, on est entre potes et tout, mais il y a quand même un certain professionnalisme, une certaine éthique et un certain sérieux qui en ressortent, qui sont latents là-dessous. Bon, toutes les émissions sont pas parfaites, hein, loin de là. Moi, il m'est arrivé de faire des émissions, de finir et de me dire bon sang, c'était lamentable ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, comme à tout le monde, je veux dire, quand on fait des, j'ai des centaines d'émissions derrière moi, elles sont pas toutes, je suis pas fier de toutes, mais il n'empêche qu'on a quand même cette envie de faire les choses bien. Et moi, je passe je sais pas, plusieurs, est-ce que je pense pas mentir en disant plusieurs heures par jour, en tout cas plusieurs dizaines d'heures par semaine, à éplucher tous les blogs, à écouter tous les podcasts, à me tenir au courant de toute l'actualité pour pouvoir vous fournir une émission qui va sérieusement pouvoir dire on suit l'actualité technologie, internet et gadgets, et j'ai une vue générale de ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. Je vais pas regarder une page deux jours avant, faire mon sujet, et voilà, j'y suis tous les jours, quoi. Et c'est pareil pour Upload, pour d'autres émissions.
Moi, j'ai une question par rapport à la télé traditionnelle qui a besoin de gens comme toi. En Suisse, on a certains blogueurs, pas forcément podcasteurs, mm-hmm. qui ont réussi à s'insérer dans les médias traditionnels, c'est-à-dire radio, télé, qui sont devenus, grâce à ça, connus et qui parlent de technologie. Est-ce que les médias, que ça soit des iTélé, des BFM TV ou des TF1 France 2 font appel à toi pour la technologie?
Bah écoute, moi j'ai eu la chance d'être invité sur Tech 24, une émission de France 24, okay. Une ou deux fois déjà. Donc oui, c'est arrivé, mais c'était surtout parce que certaines personnes dans ces milieux-là s'intéressaient à mes émissions et les connaissaient déjà. Donc c'est encore les blogueurs, oui, ça fait un petit peu la petite bête du web qu'on montre à la télé, mais les podcasteurs, pas encore. Mm-hmm. Je pense que dans tous ces domaines, on est comme partout, un petit peu, disons, 2-3 ans en retard sur les États-Unis. Les blogueurs, dans les années 2000, les annonceurs ne savaient même pas ce que c'était qu'un blog et n'y accordaient aucun intérêt. Au cours des années 2000, ça a changé, évidemment, et les blogueurs sont devenus des gens auxquels on s'intéressait. Les producteurs de médias, d'audio et de vidéo sur Internet ne sont pas encore considérés de la même manière. J'ai l'espoir que ça arrivera dans une certaine mesure, parce que en même temps, moi, faire de la radio avec le format radio, à la limite, ça m'intéresse pas énormément. Tu vois, c'est très très contraignant, c'est très contrôlé, contraint, formaté. Et ce qui me plaît, moi, justement, dans les podcasts, bon, faut jamais dire jamais, hein, mais en l'occurrence, moi, ce qui me plaît, c'est le fait de pouvoir avoir cette liberté de ton, le fait d'être entre amis et de discuter une heure et demie, deux heures sur des sujets tech, ce qui serait jamais possible ailleurs dans les médias traditionnels, parce qu'ils doivent servir un public beaucoup plus large. Donc, il y a quand même une différence là-dessus.
Alors, je me réjouis bientôt de voir No Watch sur le câble, avec une télé en permanence, 24 heures sur 24.
Bah, tu sais, ça serait possible sur Internet simplement, et à mon avis, les choses vont se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que les télés se deviennent connectées tout le temps, et donc on peut avoir une chaîne No Watch qui serait simplement la collection des émissions, quoi.
J'ai une dernière question de mon côté pour finir dans l'esprit Nip Tech. On parle souvent à la fin de l'émission de quelque chose qui nous a inspiré dans la semaine, que ce soit un livre ou un film ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça aurait été pour toi dans les dernières semaines, un livre ou un film que tu nous recommandes qui t'a inspiré?
Ah, tu me poses une colle là. un livre ou un film qui a été une source d'inspiration dans
ou
les dernières
personne,
semaines.
Ouais.
Faut que je réfléchisse un peu. Un livre, un film. Bah, je suis en train de lire encore le A Song of Ice and Fire, mais c'est pas exactement ça. Peut-être, on va dire Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, en fait, qui a fait son appel aux données ouvertes récemment. c'est pas forcément ça qui m'a le plus inspiré, mais disons que sa volonté d'ouverture et le fait qu'il aurait pu, c'était en relisant son histoire un petit peu, il disait qu'il aurait pu faire déposer des brevets sur le web finalement, mm-hmm. et on n'aurait pas eu cette révolution qu'on a connue depuis qu'il l'a inventé. Il a décidé de ne pas le faire parce que pour lui c'était naturel. Ça c'est quelque chose qui effectivement m'a, comment dire, ma it gave me pause. Ça m'a donné un moment où je me suis dit, ah oui, quand même, c'est vrai que ça c'est important, c'est quelque chose, c'est un beau travail, c'est beau quoi. C'était une belle, un beau don qu'il a fait à l'humanité, et je pense pas exagérer en disant ça. Donc voilà, ouais. Tim Berners-Lee, je pense que ça peut correspondre.
Écoute, c'est très beau, ça correspond bien, ouais.
et effectivement, j'ai parlé un tout petit peu en anglais, je me suis permis, parce que c'est vrai que je me sens très proche de la manière dont vous évoquez les choses sur Niptech, parce que vous parlez beaucoup de vos influences anglophones. Je le fais un petit peu moins dans le Rendez-vous Tech, mais moi, elles sont très présentes dans mon quotidien, parce que évidemment, tout se passe, une énorme partie de l'actualité se passe aux États-Unis, et je vis un petit peu dans ce monde qui inclut Calacanis dont on parlait, Léo Laporte, et tous ces gens-là, ce monde de podcasteurs anglophones, et c'est vrai que je retrouve ce plaisir dans votre émission qui est pourtant francophone, et ça en fait une émission un petit peu particulière, donc je voulais le signaler.
Oui, c'est pas pour les puristes de la langue, effectivement.
Entre un Canadien, quelqu'un de Dublin et un Suisse, ça donne quelque chose, des fois des mots un peu bizarres.
C'est intéressant, on va dire. Bon, bah écoutez les jeunes, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Comme on le disait, on peut vous retrouver sur niptech.com, qui est l'adresse de votre podcast. On peut aussi vous retrouver sur Twitter. Vous pouvez nous donner vos tweets, vos Twitter peut-être.
At oui. Niptech Podcast. En
ça
un
c'est
mot.
Pour le, oui, c'est pour l'émission. Vos Twitter personnels, si.
Ah d'accord. Ouais. Alors, at Bcurdy, Bcurdy pour moi.
Et puis pour moi, c'est Syde, Syde. C'est mon login depuis que l'internet existe, pour moi en tout cas. Je crois depuis 96 ou un peu avant. Alors d'accord. J'ai toujours utilisé ce nom, donc il n'était pas pris quand. J'ai fait mon compte, donc SYDE.
Twitter. D'accord, SYDE. Très bien, eh ben, merci à vous deux. Merci également à la chatroom d'avoir été présente, nombreuses et actives, comme toujours. On vous retrouve de toute façon, évidemment, dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Entre-temps, vous pouvez aller sur nowatch.net pour commenter sur cette émission. Vous pouvez aussi, tant que vous y êtes, y découvrir d'autres émissions qui, je suis sûr, j'en suis sûr, feront votre bonheur. Il y a des émissions comme Remix Jobs ou Games in the Pocket, des émissions comme Season 1, Will & Co, Saturn, je parle des émissions audio, là, il y en a aussi en vidéo si vous êtes plus dans ce trip-là. Et voilà, c'est suffisant, je pense, pour cette émission pour cette semaine. Donc on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao à tous.
Ciao.